Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est tous très heureux de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, une équipe 100% masculine. En attaque, Mohamed Bouafsi.
Bonsoir, Mamette.
Pierre en défense.
Volontiers.
Patrick dans les Gaules.
Oh, moi, je veux
bonsoir,
dire.
Mamette.
Ah bon, alors les buts pour Mathieu et Patrick. Bon, bah, c'est notre capitaine.
Milieu de terrain.
Quoi. Voilà, milieu de terrain, exactement, le Didier Deschamps de C'est à vous. Oui. Et salut à tous les quatre.
Bonsoir, Anne-Elisabeth.
Bonsoir, Mamette.
Mohamed, votre story ce soir.
Eh bien, je reviens sur l'affaire Paul Pogba. On a des nouvelles vidéos de Mathias Pogba alors qu'il est actuellement en prison. Donc, je vous expliquerai comment il a pu faire pour diffuser ces vidéos. Et la rédaction de C'est à vous a pu consulter les messages que Mathias Pogba a envoyés à Paul Pogba.
Des messages donc qu'on révèle ce soir en exclusivité, Mohamed. Il sera question de foot aussi dans un débat ce soir autour du Qatar, voilà, avec plusieurs appels au boycott, des pour, des contre. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est possible ou pas d'y aller, de ne pas y aller? On ouvre le débat avec un journaliste du magazine SoFoot qui publie le 20 octobre prochain Qatar, le mondial de la honte. Et puis Sabine Gagné, qui est responsable du programme Justice économique et sociale à Amnesty International France, qui n'appelle pas au boycott, mais qui veut la création d'un fonds d'indemnisation pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont été victimes des chantiers pharaoniques menés au Qatar. Patrick, votre édito.
Je vais vous parler de Fratelli d'Italia, qui pourrait devenir dimanche le premier parti d'Italie, et de sa chef Giorgia Meloni, sans doute la prochaine chef de gouvernement. Ce sera la première fois qu'une chef de gouvernement d'extrême droite dirige un pays fondateur de l'Europe communautaire.
Voilà, c'est l'un des faits d'actualité qu'on va soumettre ce soir à notre invité, le philosophe et essayiste Luc Ferry, qui publie par ailleurs un ouvrage sur la vie heureuse qui s'interroge de l'immortalité promise à la longévité réelle. Bonsoir Luc Ferry.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans
avec
votre
joie.
1 sur 5.
Une semaine de mobilisation désormais en Iran après la mort de Mahsa Amini. Vous savez, cette jeune femme qui portait mal son voile. Une semaine de mobilisation et vous allez entendre le témoignage d'un Iranien sur place alors que les réseaux, internet, applications sont coupés, les communications difficiles. On a réussi à le joindre.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Avatar 1, le film phénoménal de James Cameron, 13 ans après, est ressorti mercredi en version technique encore plus bluffante et ça cartonne. Avatar 2 arrive en décembre. Je vous présente les deux tout à l'heure.
Pas un, mais deux avatars ce soir dans C'est à vous. Notre invité du dîner, on l'adore. C'est l'une des humoristes préférées des Français, Florence Foresti, qui propose une série très, très autobiographique et surtout très, très drôle sur Canal+, à partir du 3 octobre prochain. Elle dîne avec nous, un dîner préparé par Camille Saint-Meleu, qui n'est pas en cuisine. Et cette fois-ci, on m'a prévenu. Non, il arrive à 20h pour préparer le dîner. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des cèpes. Mmh. Voilà, ça, c'est une certitude. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. L'Italie va-t-elle basculer? Pour la première fois, un pays fondateur de l'Europe communautaire pourrait être gouverné par l'extrême droite.
Oui, avec une coalition qui part largement favorite des élections de dimanche. Les sondages l'accréditent, cette coalition d'environ 45% des voix. Il la voit en tête dans les deux assemblées et dans toutes les régions du pays. Voici donc le trio qui devrait diriger l'Italie dans quelques jours et qui tenait meeting hier soir à Rome.
In ogni turno elettorale abbiamo avuto sempre la stessa risposta. L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra.
Gli unici che hanno paura sono loro, perché hanno capito che sta per finire il loro sistema di potere.
Un impegno che mi prendo io, si prende Giorgia, si prende Silvio, si prende Maurizio. Governare bene e insieme per 5 anni.
Barreau sur la gauche et serment de fidélité pour un attelage aussi dissemblable qu'inégal. Berlusconi, qui va fêter dans 3 jours ses 86 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même, mais il continue de faire le clown à la télévision. Hier soir, il a donné sa version de l'invasion de l'Ukraine. Poutine voulait juste remplacer le gouvernement de Zelensky par des gens honnêtes. Bon, son parti Forza Italia est donné à 7 ou 8%. Matteo Salvini, le leader de la Ligue d'extrême droite, est en perte de vitesse, 12% d'intention de vote. C'est donc une femme qui lui a volé la vedette et le leadership à la droite de la droite. Giorgia Meloni, qu'on a vu, 45 ans, chef de Fratelli d'Italia, qui avec 25% devrait devenir dimanche le premier parti du pays. Et Meloni, la première chef du gouvernement issu de la mouvance fasciste.
Est-ce qu'on peut la comparer à Marine Le Pen ?
Pas tant que ça. Comme son homologue française, elle parle surtout d'immigration et d'islam, en promettant de stopper les migrants en mer et en s'engageant à faire passer les Italiens d'abord. Mais ses valeurs sont nettement plus conservatrices ou réactionnaires que celles du Rassemblement national. Elle a fait campagne sous la devise « Dieu, patrie et famille ». Elle défend les valeurs traditionnelles, voudrait limiter le droit à l'avortement, même si elle a corrigé ensuite en disant qu'elle voulait donner aux femmes le droit de ne pas avorter. Sur l'Europe aussi, elle a mis beaucoup d'eau dans son Chianti. Elle s'affirme désormais pro-européenne en militant pour une Europe confédérale. Enfin, elle est ouvertement atlantiste. Et ça tient à la filiation de sa pensée politique anticommuniste. Chez elle, et contrairement à Marine Le Pen, pas de compliments ou de circonstances atténuantes pour Vladimir Poutine. Soutien aux Ukrainiens, aux envois d'armes et aux sanctions contre Moscou.
Perché noi invece vogliamo un'Italia forte, seria e rispettata nel contesto internazionale. Un'Europa a pieno titolo e a testa alta nell'Europa e nell'Occidente, a partire dalla difesa del popolo ucraino dall'aggressione russa.
Cette union, on l'a vu avec le discours hallucinant de Madame von der Leyen, ne cherche même plus à invoquer une coopération pour la paix, mais sans faire dans de vaines et dangereuses postures belliqueuses.
Voilà pourquoi le RN et Fratelli d'Italia entretiennent une distance méfiante. Marine Le Pen rejette, on le sait, le modèle italien d'union des droites. Et les eurodéputés de Fratelli refusent de siéger sur les mêmes bancs que le RN à Bruxelles et Strasbourg.
Les deux partis ont pourtant le même logo.
Ah voilà, la flamme tricolore. Oui, c'est la flamme qui rappelle le passé mussolinien de Giorgia Meloni. Son parti est en effet l'héritier du MSI, le parti néofasciste créé après la guerre et qui avait choisi comme emblème ce catafalque surmonté d'une flamme. C'est l'âme qui s'échappe du tombeau de Mussolini, toujours vivant. D'ailleurs, MSI, c'était le mouvement social italien, mais pour les initiés, c'était Mussolini sempre immortal. Mussolini toujours immortel. 1972, il y a tout juste 50 ans, fondation du Front National, Jean-Marie Le Pen, ou plutôt deux de ses hommes de confiance, conclut un accord avec le MSI pour emporter des affiches et emprunter le logo qui change juste une couleur, c'est-à-dire que le vert italien devient le bleu français. Le logo a été depuis simplifié, stylisé côté Rassemblement National, mais la flamme est restée chez les deux partis. Mussolini toujours pas mort.
Si Giorgia Meloni est élue ce dimanche avec sa coalition de droite, quel symbole enverra l'Italie au monde entier et à l'Europe en particulier ?
Le même que celui de la Suède ou de la Hongrie, un peu le même que le nôtre, puisque Marine Le Pen, qui est malgré tout quand même très proche dans la mouvance, même si Patrick a raison, il y a des différences, mais les 42% de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle et puis les 89 députés, c'est aussi un signal que la France envoie au monde entier. Un de mes amis, Dominique Régnier, qui préside la Fondation pour l'innovation politique, a fait un très bon dossier il y a quelques jours sur le fait que la France elle-même est très à droite. S'il y avait une union des droites en France, Marine Le Pen serait à l'Élysée. La grande question, c'est de savoir pourquoi la social-démocratie s'effondre un peu partout en Europe.
Vous parliez de la proximité de cette flamme-là et du logo. Pourtant, l'historien Marc Lazare, interrogé ce matin, dit qu'on ne peut pas dire que c'est le fascisme qui va arriver au pouvoir. Il a raison ?
Oui, il a raison. Marc Lazare connaît ça admirablement, il a raison. Non, c'est une droite radicale, mais c'est pas... Même parler d'extrême droite, là encore, je vais citer quelqu'un d'autre, mon vieil ami Marcel Gauchet, à juste titre, dit que l'extrême droite, c'est autre chose. C'est autre chose. L'extrême droite, c'est vraiment... C'est Hitler, c'est Mussolini, c'est Pétain, c'est pas... c'est ni Le Pen ni l'Italie actuelle. Mais alors, cela dit, en Italie comme en Allemagne, ce qui est extrêmement dangereux, c'est de voir que des pays entièrement fascistes ou nazis pour l'Allemagne ont oublié leur passé. C'est ça qui est... En France, c'est quand même très différent. Mais en Italie, c'est très surprenant de voir un pays revenir quand même dans un sillage qui, malgré tout, a un passé d'extrême droite.
Mais longtemps, les néo-fascistes ont fait 3-4%. Voilà. Mais là, en Italie, c'était le cas dans les années 70. Voilà. Et puis, c'est revenu. Elle a tout un... Il y a tout un passé de déclarations. C'était une admiratrice déclarée de Mussolini, et elle a débuté en politique
Elle était d'extrême droite, mais ses prises de position aujourd'hui sur l'avortement ou sur l'Europe ne sont pas des positions d'extrême droite, par exemple, sont des positions chrétiennes. Ce serait sens commun en France, voilà. Mais ce n'est pas des positions d'extrême droite.
C'est un mélange de Zemmour, effectivement, pour ce qui est des positions ultra-conservatrices sur la société. Souverainiste, incontestablement, à cause de ses positions.
Mais pas, elle ne veut pas quitter l'Europe, quand même. Elle ne veut pas quitter l'Union européenne.
Elle ne veut pas quitter l'Europe, elle veut la transformer en une Europe.
Voilà, et la même chose sur l'avortement. Elle ne dit pas, on ne va pas revenir sur la loi sur l'avortement, mais on va permettre aux femmes d'éviter d'avorter. Voilà,
bon. Ce que disent ses adversaires, c'est que tout ça, ce sont des évolutions tactiques pour se faire élire, et que au
le
fond
vrai
d'elle-même,
visage.
Oui, d'elle-même. Et par ailleurs, voilà, l'un de ses lieutenants et l'un de ses membres a été pris en train de faire un salut fasciste il y a encore quelques jours.
L'entourage, et elle-même vient du fascisme, ça c'est indubitable. Mais encore une fois, dans ces pays malgré tout démocratiques, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin ou dans son Chianti, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le renouveau, si je peux dire, la recrudescence ou le retour d'une tradition. Alors pour le coup, la tradition, elle est d'extrême droite, là-dessus on est d'accord. Mais c'est pas ce qu'elle vend aujourd'hui. L'extrême droite, c'est quand même autre chose. Elle n'est pas antisémite, par exemple. C'est pas son fonds de commerce.
Dans l'actualité, il y a aussi ces référendums d'annexion par la Russie qui ont débuté dans les régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. Des scrutins montés à la hâte où un classeur en carton tient le lieu d'isoloir.
Oui, c'est grotesque, oui.
Normalement, on devrait voir.
Давайте посмотрим, да или нет.
Вот здесь писать, да?
Да. Галку ставьте. А.
Ces référendums, c'est quoi ? C'est un signe supplémentaire du cynisme de Vladimir Poutine ?
Non, ce n'est pas du cynisme, mais c'est assez ridicule, puisque personne ne reconnaîtra ces élections. Personne ne reconnaîtra dans le monde occidental, mais même pas chez lui. Et donc, c'est un peu ridicule. Cela dit, sur le fond de l'affaire ukrainienne, la grande question, c'est comment stopper aujourd'hui la folie meurtrière de la soldatesque russe et de son chef. Donc, comment stopper ça ? Moi, j'ai ce débat avec un certain nombre de mes amis, avec Danny Cohn-Bendit, par exemple. Il continue à penser qu'en armant l'Ukraine, en se rangeant sur la position américaine, on va réussir à l'Ukraine, les Ukrainiens vont avoir des succès militaires suffisants pour contraindre Poutine à une espèce de négociation. Je n'y crois pas, je pense que ce n'est pas ça.
Oui.
À l'autre solution, elle est évidente, elle est à mon avis beaucoup plus efficace que la guerre. Je ne crois pas que Poutine quittera la Crimée. Je suis sûr que non, même. Je jure que non, ici. Voilà.
Donc, il quittera pas solution.
La solution, si j'étais président de la République, pour parler comme à l'hôpital psychiatrique, j'appellerais mon collègue Olaf Scholz, j'irais voir le président chinois, et je pense qu'il est la seule personne au monde aujourd'hui à pouvoir dire à Poutine, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter parce que la Chine n'a pas intérêt à cette guerre. Elle a trop d'intérêts commerciaux, économiques avec les États-Unis, avec l'Europe, pour souhaiter une guerre qui va se mondialiser. Et donc, je pense qu'il faudrait obtenir du président chinois qu'il sermonne Poutine. Je pense qu'il peut avoir un effet considérable sur lui. Et deuxièmement, il faudrait obtenir de Zelensky qu'il comprenne que sans avoir une concession, non pas territoriale, comme l'a dit même Macron, ou Kissinger, mais si on n'accorde pas une autonomie aux républiques séparatistes du Donbass, il n'y aura pas de paix. C'est tout. C'est impossible. Et moi, je connais bien la région. Pardon, excusez-moi. Si on ne reconnaît pas quelque chose comme la Catalogne, ou peut-être ce que la France va faire pour la Corse, si on n'accorde pas une autonomie relative à ces républiques du Donbass, la guerre continuera éternellement.
On n'en est plus là aujourd'hui, Luc Ferry.
Non, mais c'est demain, pas aujourd'hui.
Si vous armez l'Ukraine, vous donnez une chance aux Ukrainiens d'arrêter les Russes, voire de les repousser jusqu'à leurs frontières, si vous arrêtez d'armer les Ukrainiens, vous faites disparaître l'Ukraine.
Non, j'y crois pas du tout.
Si vous arrêtez d'armer les Ukrainiens, l'Ukraine disparaîtra.
Non, je suis en désaccord total avec cette analyse. Je la connais par cœur, je l'entends toute la journée. C'est l'analyse de la plupart des médias aujourd'hui. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que
la plupart des gouvernements...
Exactement, l'Union européenne, pour le coup, arme l'Ukraine. Oui. Hein.
Mais
c'est pas
peu,
juste la position
assez
américaine.
Peu, assez mal. L'Union européenne s'est alignée aujourd'hui sur les États-Unis, en effet, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il était nécessaire d'armer l'Ukraine pour éviter que la Russie aille jusqu'à Kiev et jusqu'à
Odessa. C'est ce que vient de dire Patrick ?
Non, c'est pas ça.
Qui serait revenu à l'annexion de l'Ukraine ?
Non, ça n'a rien à voir. Non, quand Zelensky annonce que le but de la guerre, c'est de la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est ce qu'il a dit, y compris la Crimée, je pense que c'est délirant. Voilà, donc je pense que même s'il reprenait le Donbass, imaginons que grâce aux armes américaines et grâce au talent militaire et au courage des Ukrainiens, imaginons qu'ils reprennent la totalité du Donbass grâce à cet armement européen-américain, ça n'arrêterait pas la guerre du Donbass. La guerre du Donbass, depuis 2014, elle existe indépendamment même de...
Elle est alimentée par les Russes.
Elle est alimentée par les Russes et par les pro-russes. Si vous regardez toute l'histoire des élections en Ukraine, les élections pro-russes ne sont pas du tout négligeables. Et en particulier dans les territoires autoproclamés, les territoires séparatistes. Et donc,
regardez le résultat du référendum pour l'indépendance de l'Ukraine. C'était, si je me souviens bien, en 1991. Eh bien, toutes les régions d'Ukraine, y compris les régions du Donbass et y compris la Crimée, ont voté pour cette indépendance.
Non, je suis désolé, c'est pas vrai, non. Ils ont voté, non, pas majoritairement dans les régions séparatistes, c'est pas vrai.
Si, pas dans les 70%.
Ceux qui nous écoutent trancheront. Moi, je dis simplement que Macron a raison là-dessus, Kissinger a raison là-dessus. Sans reconnaître une autonomie des républiques séparatistes du Donbass, jamais il y aura la paix. Et j'ajoute une chose, jamais l'Ukraine ne reprendra la Crimée qui est russe depuis toujours.
Alors, on va complètement changer de sujet. On revient en France. Depuis plusieurs jours, deux composantes de la NUPES, la France Insoumise et Europe... Ah oui, on a changé, j'avais prévenu. Et Europe Écologie Les Verts sont empêtrées... Ah non, c'est pas moins grave. Pour des raisons différentes dans des affaires de violence faites aux femmes. Ce matin, sur CNews, Manuel Bompard, député LFI, réagissait à la situation d'Adrien Quatennens, qui s'est mis en retrait du parti après avoir reconnu avoir giflé sa femme.
Je ne minimise pas les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable. Il a présenté ses excuses. Donc non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance, à avoir des principes qu'on doit respecter. Et il faut prendre en compte les paroles de celles qui s'expriment sur ce type de sujet.
Alors est-ce qu'on est dans la nuance, dans la proportionnalité des peines, comme a voulu le préciser un peu plus tard Manuel Bompard, ou est-ce qu'on minimise, contrairement à ce qu'il prétend ne pas faire ?
Oui. Non, quand je disais que c'est moins grave, je ne parlais pas des faits, je parlais de la réaction de la NUPES, qui est ridicule. C'est cette espèce de réaction quand il y a eu une conférence de presse où ils se sont retrouvés tellement embarrassés qu'ils ne savaient plus quoi faire. C'est de ça que je parlais, ce ridicule de la NUPES, oui, évidemment. Quand c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire comme quand on est moraliste et qu'on donne des leçons à son voisin et au monde entier... on se retrouve en très grande difficulté. Je crois que ce qui a changé quand même, quand je vois toutes ces affaires, Bourdin, PPDA, Nicolas Hulot, la NUPES, Bayou aussi. Enfin,
il y a Bayou qui était.
Voilà, lui aussi. Je me souviens que dans les années 70, au fond, on rigolait. Moi, j'ai trois filles, donc ça ne me fait pas du tout rigoler. Et donc, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est profondément salutaire. Ça ne veut pas dire que je suis néo-féministe, je ne vais pas voter pour Sandrine Rousseau, mais je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. C'est extraordinairement positif. Il ne faut pas en profiter pour passer de l'autre côté du cheval. On n'est pas obligé de devenir wokiste et néo-féministe, éco-féministe fanatique, mais encore une fois, cette libération de la parole, elle dit quelque chose sur les années 70 où on s'en foutait. On rigolait quand il y avait des histoires comme
bien
ça.
Sûr.
Et c'est honteux. Donc c'est bien ce qui se passe. Moi, encore une fois, je suis pas un féministe fanatique, mais là, je pense que c'est vraiment ce qui se passe est incroyablement positif.
On en vient à La vie heureuse, le titre de votre nouveau livre, qui pose une question morale. Dans un monde où les progrès de la médecine ont permis d'allonger l'espérance de vie, qu'est-ce qu'on en fait de ce supplément de vie ? C'est une question qu'on doit tous se poser. La vieillesse, la mort, c'est dans l'ordre naturel des choses. Pourquoi est-ce qu'on lutte ?
Non, il y a deux questions différentes.
Pour retarder l'échéance ?
Il y a une question scientifique. Un certain nombre de scientifiques, depuis notamment 2012, c'est le prix Nobel qui a été accordé à un scientifique japonais qui s'appelle Yamanaka. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Yamanaka a réussi à inverser les processus du vieillissement cellulaire. Bon, je ne rentre pas dans les détails, dans le livre je le fais. Alors, j'ai beaucoup travaillé la biologie dans ma vie, j'ai fait des cours sur la biologie, enfin peu importe. Mais il y a deux questions. Il y a la question de savoir si la promesse de vivre 150 ans en très bonne santé, jeune, il ne s'agit pas d'augmenter la vieillesse, hein, il s'agit de retarder la vieillesse. Il s'agit d'abord de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est de la science ? Ça, c'est la question factuelle, la question scientifique, donc ça occupe la moitié de mon livre. Et puis la deuxième question, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que vous aimeriez, même si c'est jeune, en bonne santé, imaginons, je dis ça comme ça, là pour le coup c'est un peu de la science-fiction, qu'on s'arrête de vieillir à 40 ou 45 ans ? Est-ce que ça vous tenterait de vivre 150 ans jeune, en très bonne santé ? Et par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux philosophies qui s'opposent, mais radicalement. Vous lisez, par exemple, un petit dialogue de Cicéron qui s'appelle « De la vieillesse ». C'est assez marrant parce que la première phrase, on croit que c'est écrit aujourd'hui, il dit « Est-ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans ?» Il dit « Non !» Parce que pour un ancien, pour un stoïcien, c'est un stoïcien en l'occurrence, le but de la vie, ce n'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre bien. Et vivre bien, c'est vivre en harmonie avec le Dieu nature, avec le cosmos. Donc il faut vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte, et comme un vieillard quand on est un vieillard et accepter la mort.
On ne peut pas rester tout le temps un enfant ou tout le temps rester un adulte.
Non, faut vivre. Les âges de la vie sont en phase avec la nature. On compare, il compare avec un arbre, avec les fruits qui naissent, qui se développent, et puis qui tombent par terre. Et si vous êtes dans ma philosophie à moi, c'est-à-dire la perfectibilité infinie, on dirait aujourd'hui l'éducation tout au long de la vie. Alors au contraire, la vieillesse apparaît comme un mur stupide. Ça sert, comme disait De Gaulle, un naufrage. Les gens parlent du bien vieillir, mais on vieillit bien quand on s'arrête avant la catastrophe. La vérité, elle est là. Et surtout, si on parle de l'idée de perfectibilité humaine infinie, c'est-à-dire l'idée que rien ne nous empêche de continuer à apprendre à devenir meilleur si on y travaille, la vieillesse, c'est quelque chose qui, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel, est simplement catastrophique. Et donc, il y a ce débat qui est absolument passionnant, parce qu'il y a des arguments très forts des deux côtés, que je raconte dans le livre, mais aussi le débat scientifique est génial. Mmh. Alors moi, j'ai enseigné à Jussieu à la fac de sciences sur biologie et philosophie, mais j'avais eu la chance de travailler avec Jean Dausset sur le premier séquençage du génome. Donc sur le plan scientifique, c'est passionnant aussi, et j'essaye d'expliquer les choses de telle sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que, comment dire, non pas ralentir le vieillissement en prenant des crèmes anti-rides, mais là, on inverse les processus du vieillissement cellulaire. Donc c'est une véritable révolution de la longévité qu'on est en train de vivre. Et ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est vrai.
Sagesse ancienne et spiritualité laïque, La vie heureuse, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est signé Luc Ferry. Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre.
Joie.
Et notamment ce débat qui monte depuis la prise de position de Vincent Lindon jusqu'à celle de l'ancien président François Hollande, en passant par Basile Boli, la France insoumise, l'acteur Roche Dizem ou encore Fabien Roussel. La question du boycott ou non du mondial au Qatar qui doit commencer dans 2 mois.
On peut aimer le foot et détester cette Coupe du Monde.
Non, je ne comprends pas les appels au boycott parce que c'était voté depuis 10 ans.
C'est compliqué, à quelques semaines du début, de dire tout d'un coup, en fait, il ne faut pas le faire.
Je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change les émissions de gaz à effet de serre de cet événement.
Si j'étais footballeur professionnel, je ferais le choix de ne pas y aller.
J'adorerais me transformer en une grande star de football, faire une conférence de presse et dire voilà, j'ai pris la décision personnelle de ne pas aller au Mondial. Sans prévenir mon entraîneur et mon pays. C'est ma décision d'hier soir. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui commenceraient à dire « à la vache ».
Et vous regarderez ?
Ah bien sûr, je supporterai l'équipe de France.
Non, moi, à titre personnel, je ne le regarderai pas, je boycotterai. Oui. Mais je ne veux pas culpabiliser les gens qui le regarderont.
Le spectateur lambda que je suis, que la Coupe du Monde se déroule au Qatar ou au Zimbabwe, nous, ce qu'on aime, c'est le foot. On n'a pas choisi le Qatar. Nous, ce qu'on veut, c'est voir... Et puis, en plus, ça a lieu tous les 4 ans.
Si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, je ne me rendrais pas au Qatar.
Nicolas Xispartov, journaliste au magazine SoFoot, auteur du Qatar, le mondial de la honte, c'est à paraître le 20 octobre prochain. Bonsoir, merci de votre présence. À vos côtés, Sabine Gagné, responsable à Amnesty International France, l'ONG qui, depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire depuis 12 ans maintenant, alerte sur les atteintes aux droits de l'homme, notamment dans les conditions de travail proposées aux ouvrières et aux ouvriers des chantiers de construction. S'il était président, François Hollande n'irait pas au Qatar. Et Emmanuel Macron s'y rendra-t-il ? À cette question, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'a pas répondu. Nicolas Xispartov, ça illustre bien la complexité de la question.
Ah oui, la question. D'abord, je suis très étonné de la réaction de M. François Hollande, parce qu'il a comme été aux affaires à une époque où il aurait pu prendre des décisions et il ne l'a pas fait. Et on connaissait déjà la situation sur place au Qatar, notamment pour les travailleurs migrants. Moi, j'avais entavé Mme Najat Belkacem, qui était en responsabilité du sport, qui m'avait dit qu'un boycott était inévitable. Donc pour M. Macron, sérieusement, s'il n'allait pas au Qatar, ça serait d'une hypocrisie monstrueuse, vu les relations extrêmement fortes que notre pays entretient avec l'Émirat. Je rappelle qu'on a décidé d'envoyer 200 spécialistes de la sécurité des événements sportifs. Ça a été voté à l'Assemblée nationale pour aider le pays à affronter cet événement et à être sûr que tout se passe bien, ce qui est un peu rigolo quand on sait la situation en France. Aujourd'hui, on est dans les stades. Donc voilà, ça serait une hypocrisie monstrueuse. Évidemment que Emmanuel Macron, si la France fait un beau parcours, parce qu'il y aura toujours cet argument de dire si on est éliminé en poule en huitième, pas besoin de se déplacer. Mais si on est en finale, mais vous imaginez sincèrement que Emmanuel Macron n'ira pas des personnes qui, par ailleurs, il passe son temps à solliciter pour qu'elles investissent en France. On a besoin du gaz qatari énormément en ce moment. Donc
Oui, on comprend bien que ni la France, ni même la Fédération française de football ne peuvent officiellement prendre position contre cette Coupe du Monde. Aucun joueur de l'équipe de France non plus ne s'est exprimé sur ce sujet. C'est pas du tout ce que vous leur demandez à Amnesty International, Sabine Gagné. Non, vous leur demandez pas de boycotter ou de ne pas y aller, mais en revanche, de se prononcer sur la question des violations des droits au Qatar.
Il n'est jamais trop tard pour s'indigner. Et nous, au contraire, on leur demande de prendre position, on leur demande d'être courageux, de s'exprimer sur le sujet. Ça fait des mois, voire des années, qu'on interpelle la Fédération française de football. On a commencé des campagnes en 2016, parce que, vous l'avez dit, on documente le sujet, on fait des recherches depuis 2010, depuis l'année d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et la Fédération française ne nous a jamais répondu, dans le sens où elle ne s'est jamais engagée sur ce terrain-là. Alors, elle nous a reçus, mais il a fallu déployer une banderole devant leur bureau en mois de décembre, et on a été reçus au mois d'avril. Mais depuis, c'est la sourde oreille, il n'y a pas de prise de position de la Fédé sur le sujet.
C'est plus facile à dire qu'à faire que les joueurs, comme ça, prennent la parole sur la question de la violation des droits au Qatar ?
Il faut encore... Est-ce que c'est à eux de le faire ? Ça, c'est la question du boycott est encore une question. Moi, je ne suis pas favorable parce que j'ai toujours su qu'un État comme la France ne boycotterait pas.
Non, mais pas sur le boycott, mais sur ce genre d'indignation.
Mais c'est possible, évidemment, c'est des citoyens. Ce sont des citoyens d'abord.
Ce serait possible.
Donc, ils peuvent, en leur âme et conscience, prendre position. Mais comment dire ? Imaginez que Kylian Mbappé, qui vient de re-signer au Paris Saint-Germain après que le président de la République l'ait appelé pour le faire, dont l'employeur est par ailleurs QSI et le président et membre du comité d'organisation de la Communion Qatar. Est-ce que, sincèrement, vous pensez envisageable qu'ils disent quelque chose ? Par contre, effectivement, on le souhaiterait tous, mais ils ont d'autres options. Ils peuvent alerter sur leurs soucis de la question des droits humains, ils peuvent porter des banderoles, ils peuvent faire pression pour que, par exemple, des demandes comme celle de l'Amnesty International, qu'un fonds économique
d'indemnisation
soit débloqué, parce que la FIFA est très chère, et comme elle ne paye jamais d'impôts nulle part, je pense qu'elle a des revenus. Puis, ça serait un moyen que ces joueurs, que Kylian Mbappé disent maintenant, un peu d'argent pour ces personnes grâce auxquelles on joue, parce qu'elles sont, après tout, ils jouent en partie sur des ossements. Donc, voilà, que les familles récupèrent un peu de l'argent monstrueux qui a été investi. 100 milliards de budget de la Coupe du Monde au Qatar.
30% des Français seraient prêts à ne pas regarder un seul match de la Coupe du Monde. Eric Cantona a dit que lui, il n'en regarderait pas un seul. Mais parmi les 5% d'amateurs du ballon rond qui se disent prêts à ne pas regarder, près de la moitié pensent craquer si la France arrive en finale. Évidemment. Et d'ores et déjà, certains maires de France ont fait savoir qu'ils ne retransmettront aucun match dans leur commune.
Pendant qu'ici, on va se serrer la ceinture, là-bas, ils vont dépenser sans compter pour climatiser les stades. Et puis, il y a aussi un volet qui est important quand on est élu, c'est l'utilisation de l'argent public. Mettre un écran géant, c'est à peu près 6 000 euros. Donc, je ne mettrai pas, c'est sûr, 1 euro pour cette Coupe du Monde.
Vous y croyez, ce boycott des spectateurs ou téléspectateurs, Nicolas?
Écoutez, on verra en fonction des audiences. Ça serait un des rares leviers efficaces, parce que s'il y a bien une chose que la FIFA regarde, ce sont les audiences, parce que les droits télé sont une part importante de ses revenus, ça ferait un boycott très efficace. Maintenant, qu'est-ce que vous, je vous dis ? Moi, je refuse de culpabiliser les gens qui auront envie de regarder la Coupe du Monde. Je comprends très bien, parce que par ailleurs, je suis un passionné de football, moi également. Donc, et j'aurai un garçon chez moi qui voudra absolument regarder les matchs. Donc, qu'est-ce ouais, que ouais. je vous dis ? C'est pas à ce niveau-là que ça joue, franchement.
Ouais, juste une petite précision, Sabine Gagnard, puisque les capitaines des 8 plus grandes sélections, notamment la France, ont accepté de porter un brassard à la Coupe du Monde contre les discriminations et notamment contre les discriminations faites à la communauté LGBT. Plus particulièrement, c'est les droits que certains n'ont pas au Qatar. C'est juste une petite précision en plus. Pour,
c'est pas les couleurs LGBT du brassard.
Non, c'est discrimination, mais en plus, les couleurs LGBT aussi. Et notamment, Hugo Lloris portera ce brassard à la Coupe du Monde au Qatar. C'est juste une petite précision en plus. Cette Coupe du Monde a été attribuée au Qatar en 2010. Nicolas Kassismartov, l'émirat était trop puissant pour qu'on ne lui donne pas cette Coupe du Monde.
Ça me semble évident, s'il y a bien une Coupe du Monde qui a été achetée, et que je dis ça simplement, je pense qu'il n'y a même pas de corruption. Le Qatar est un acteur économique essentiel du football aujourd'hui. Par ailleurs, la FIFA a deux préoccupations. Que sa Coupe du Monde ait un certain standing. Et elle savait pertinemment, la FIFA, et notamment son président, qu'avec le Qatar, les investissements seraient monstrueux. D'autre part, un régime stable sans problème. Le Qatar donnait ses garanties. Il rajoute désormais ce petit, il saupoudre de « il fallait qu'un pays arabo-musulman l'organise ». Il y avait d'autres candidats comme le Maroc, et sans parler du régime, hein, qui pouvait éventuellement être en lice. Donc non, évidemment, c'est impossible de lui dire non. Mais c'est bien là le problème, et c'est un des aspects qu'il faut absolument développer. Comment on peut imposer des règles, normalement aujourd'hui, à la Coupe du Monde, mais aussi aux Jeux Olympiques. On sait ce qui s'est passé aussi bien avec la Russie de Poutine que récemment en Chine. Donc quelles sont les règles qu'on peut imposer en termes de respect des droits humains, des droits du travail, des grandes chartes internationales qui régissent normalement les relations internationales. On voit bien qu'on a exclu la Russie des compétitions sportives et notamment de football parce qu'elle avait violé et qu'elle est en train de déclencher une guerre en Ukraine. Est-ce qu'on ne peut pas pousser cela pour que ça protège également les populations, notamment, et les travailleurs ?
Justement, une équipe de complément d'enquête s'est rendue au Qatar et a pu filmer les conditions de vie des ouvriers.
À 30 km du centre-ville, la zone industrielle de Doha est strictement interdite aux Occidentaux et aux caméras. Nous tournons clandestinement. Des centaines de milliers de travailleurs migrants sont entassés ici, dans ces immeubles insalubres. Ce bâtiment héberge les gardes de l'hôtel de l'équipe de France.
Let's visit now.
Une centaine d'hommes vivent ici, logés par leur employeur. Leurs conditions de vie violent tous les engagements du Qatar en matière de droit du travail lié à la Coupe du Monde.
Un numéro de complément d'enquête qui sera diffusé le 13 octobre prochain à 23h sur France 2. Vous demandez, Sophie Gagné, avec Amnesty International, donc un fonds d'indemnisation pour les femmes et les hommes qui ne sont pas payés ou si peu, ou pour dédommager les familles des victimes. On parle de 6 500 ouvriers morts sur les chantiers. Vous dites qu'il faudrait au moins 440 millions de dollars pour réparer toutes ces dérives.
La FIFA, elle a failli à ses responsabilités. Donc, elle doit payer, elle doit indemniser les travailleurs migrants qui sont venus en très grand nombre pour construire ces chantiers colossaux de la Coupe du Monde. Alors, 6 500 morts, ça, ce sont les chiffres du Guardian. Amnesty parle de milliers de morts parce qu'en réalité, c'est très difficile de pouvoir prouver le nombre de morts qui sont vraiment, effectivement, qui ont perdu la vie sur ces chantiers dans la mesure où il n'y a pas d'enquête du Qatar. Et donc, les certificats de décès indiquent souvent que c'est une cause naturelle ou que c'est une crise cardiaque ou un arrêt respiratoire, mais il n'y a pas de lien de causalité avec les conditions de travail sur les chantiers. Donc, les familles ne peuvent pas être indemnisées pour la perte de leur être au
Qatar. Pourquoi cette somme de 440 millions ? Parce que ça correspond aux primes versées.
Oui, c'est ça. Ce chiffre n'est pas pris au hasard. Ça correspond aux primes que toucheront les équipes qui participeront au Mondial.
C'est assez symbolique.
C'est assez symbolique et je rappelle que la FIFA va faire 6 milliards de profits pour
ce Mondial.
Mohamed parlait des discriminations il y a un instant. Le Qatar est un pays où les relations en mariage sont interdites, de même que l'homosexualité. Là-dessus, il y a deux jours, à la tribune de l'ONU, à l'Assemblée Générale, l'émir du Qatar a tenté de rassurer sur ces questions.
يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم يقول تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، واجبنا هو أن نتجاوز العوائق وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة. ونيابة عن شعبي وبالأصالة عن نفسي، أدعوكم جميعا للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة.
Le Qatar accueillera les amateurs à bras ouverts, les amateurs de tous horizons. Ça dit quelque chose, ça...
Ça ne mange pas de pain.
Ça ne mange pas de pain,
oui,
effectivement.
Ça mange pas de pain, oui.
Les touristes, oui.
Peu de temps auparavant...
Les touristes ont toujours accueilli.
Mais peu de temps auparavant, il avait aussi été fait mention que les couples homosexuels devaient se faire discrets, qu'il ne fallait pas brandir les drapeaux LGBT dans les stades, que ce n'était pas pour interdire quoi que ce soit, que c'était pour leur protection. Mais bon, oui, ça donne quand même bien la tonalité. Et effectivement, en fait, l'homosexualité est passible de peine de 7 ans de prison au Qatar. Donc les droits des personnes LGBT ne sont pas respectés au Qatar. De même que les droits des femmes sont aussi extrêmement problématiques.
Qu'est-ce qu'on sait des supporters français qui ont prévu de faire le déplacement ? Une association importante de supporters irrésistibles français dit qu'il y a, ils seront 6 fois moins nombreux au Qatar que lors du dernier mondial en Russie.
Le président, en tout cas, a expliqué qu'il n'irait pas et qu'il était très déboussolé par ce qu'il avait découvert. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le coût, déjà. On est au mois de novembre, c'est hors période estivale habituelle de vacances en France. J'ai du mal à me le représenter. Le Qatar prétend qu'il y a énormément de billets qui sont achetés, notamment de pays comme l'Argentine ou des États-Unis. Enfin, que de ce point de vue-là, tout va bien. Pour la France, je n'ai pas de vision. Ce qui est certain, c'est qu'un des enjeux essentiels pour le Qatar à travers cette Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement l'événement, c'est de supplanter ses voisins, dont Dubaï, pour devenir une destination touristique pour les pays occidentaux, les riches asiatiques, etc. Et donc arriver à vendre un pays, comme il a dit, accueillant, mais jamais les touristes ont été menacés, occidentaux ont été menacés pour d'avoir des relations sexuelles en mariage, etc. Ce n'est pas le débat, c'est pour les habitants que c'est problématique. Et c'est pour eux qu'en gros, on prend position également.
Un mot de réaction, Luc Ferry ?
Moi, j'ai eu des désaccords avec Amnesty International sur Israël et aussi sur l'Ukraine. Je pensais que le rapport sur l'Ukraine n'était pas idéal, mais là, en revanche, je suis intégralement d'accord avec vous. Et pour continuer dans la rubrique hôpital psychiatrique, si j'étais président de la République, je soutiendrais, je pense que c'est important qu'un président, parce qu'il va être obligé d'y aller si la France... C'est important qu'un président soutienne votre revendication de faire payer la FIFA. Et je pense que c'est au président de la République de le dire, puisque par ailleurs, pour des raisons diplomatiques, il est probablement obligé d'y aller.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre. Je rappelle, Nicolas Xismartov, votre livre apparaît le 20 octobre prochain. J'allais montrer celui de Luc Ferry. Non, le vôtre, je ne peux pas encore continuer. Le montrer. Ça s'appelle Le Qatar, le mondial de la honte. Et ce sera aux éditions Libertalia. Voilà, je remonte la vie rouge de Luc Ferry. Tout de suite, la story de Mohamed Bouabsi. Et on reparle de Mathias Pogba qui lance de nouvelles accusations contre son frère malgré son incarcération. C'était samedi dernier.
Oui, nouvel épisode aujourd'hui du sordide feuilleton opposant le joueur de l'équipe de France Paul Pogba à son frère Mathias à 5h25 cette nuit. Ce dernier a posté une quarantaine de tweets et 45 vidéos. Vous allez me dire comment est-ce possible alors que Mathias Pogba a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminel et qu'il dort en prison depuis le 17 septembre. Eh bien, tout simplement parce que ces messages ont été enregistrés et leur publication programmée au cas où il se ferait interpeller.
Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba a trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour.
Mathias Pogba revient dans cette nouvelle salve de vidéos 1h30, puisqu'on a regardé à la rédaction les 1h30 de vidéos de Mathias Pogba. Bravo. Sur les accusations de sorcellerie qu'il porte contre son frère Paul. Mais cette fois-ci, il est plus précis. Il accuse son frère d'avoir fait marabouter Kylian Mbappé lors d'un match en particulier, celui qui a opposé le PSG, équipe de Kylian Mbappé, à Manchester United, équipe ancienne équipe de Paul Pogba. C'était le 6 mars 2019, en 8e de finale de la Champions League, et qui s'était soldé par la défaite et l'élimination du PSG.
Le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Marc de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même face à une équipe de réserve. Sachez que mon frère à plusieurs reprises a jeté des sorts à ses coéquipiers footballeurs, que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre.
Alors bien évidemment, je vous épargne les 45 autres vidéos qui ont toutes la même qualité de mise en scène. Mais pour résumer, Mathias Pogba affirme avoir les preuves du maraboutage contre Mbappé et menace depuis des mois son frère de les dévoiler s'il ne paye pas les maîtres chanteurs qui lui réclament des millions d'euros. La preuve en image, grâce à plusieurs messages qui ont été envoyés à Paul Pogba et sa conseillère Rafa. Nous avons pu les consulter à la rédaction de C'est à vous grâce à une source policière. Vous voyez ici, sur celui qui s'affiche, Mathias Pogba ordonne son frère de verser au moins 1 million d'euros pour calmer les maîtres chanteurs. Il est apparu que depuis plusieurs années, les amis d'enfance de Paul Pogba profitaient de son argent en laissant plusieurs ardoises de 4 000 euros chez Adidas ou en lui faisant investir des centaines de milliers d'euros dans un restaurant de burgers de Seine-et-Marne. C'est lorsque le joueur a voulu mettre un terme à ses abus qu'il a été séquestré et menacé, puis que sa mère a été à son tour menacée et qu'enfin les vidéos de Mathias Pogba ont commencé à apparaître. Ce matin, Mathias Pogba continuait à affirmer que ce n'est pas lui, mais son frère Paul, qui baigne depuis quelques années dans le grand banditisme.
Sachez que mon frère, comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants, et qu'il a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom, d'une part pour se protéger dans la rue, et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui et qu'ils fassent couler le sang pour lui.
L'avocat de Mathias Pogba, maître Yacine Bouzrou, a fait savoir à C'est à vous qu'une demande de mise en liberté est actuellement étudiée par la justice et qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur les 45 vidéos du jour. Sur le plan sportif, Paul Pogba est toujours en rééducation après une opération du genou. Il est très incertain pour la Coupe du Monde au Qatar dans 2 mois. Nicolas Cassis-Martoff, on touche, on va le dire clairement, le fond avec cette affaire Mathias Pogba.
C'est une histoire sur laquelle on a du mal à se positionner parce qu'on apprend des choses constamment. Ce qui est certain, c'est que malgré tout, ce n'est pas forcément spécifique au monde du football. La richesse, l'intériorité, ça attire les convoitises, ça fait tourner les têtes, comme on dit. On a vécu ça dans d'autres sports. Particulièrement là, ce qui semble commencer à se dessiner, c'est cette histoire de cercle concentrique avec peut-être des gens, mais encore une fois, on n'est que dans du spéculatif lié au grand banditisme. Mais imaginez ces personnalités qui à eux seuls, sont des entreprises avec des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui circulent. Ça aiguise les appétits. Moi, je ne sais pas quoi trop rajouter. Après, Mathias Pogba, ça me laisse pantois, parce que c'est quand même la dérive aussi d'un homme. On a l'impression qu'il est complètement perdu. Peut-être qu'il a vraiment eu peur, peut-être qu'il joue un double jeu, on n'en sait rien. Mais alors, une chose est certaine, vous embêtez plus à prendre Netflix ou Prime Video. Franchement, il y a des séries qui sont produites pour des milliards aujourd'hui. Mais c'est d'une tristesse terrible, parce que par ailleurs, on sait tous ce que représente le football, notamment dans les milieux dont sont issues ces personnalités, et comment ça donne une image très dégradée, non seulement de ce sport, mais de cet environnement, alors que la grande majorité des personnes qui vivent dans ces quartiers, notamment, sont très loin de ces logiques.
Ouais, merci beaucoup, Nicolas Cris-Martoff. Tout de suite, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. D'autres sujets encore à vous soumettre. Votre tabouret est avancé.
Merci madame.
L'urgence écologique et de nouvelles marches pour le climat organisées aujourd'hui.
Oui, c'est le retour des manifestations du vendredi, les Fridays for Future, vendredi pour le futur, avec la manifestation parisienne. Sur ces images d'Anaïs Rocouli aujourd'hui, des rassemblements, des manifs étaient organisés partout dans le pays, Lille, Bordeaux, Rouen, Lyon, je ne vous fais pas toute la liste, dans le monde entier en réalité. Le vendredi, jour de marche pour le climat, vous le voyez, après un été où le réchauffement s'est fait sentir très concrètement, je n'y reviens pas. En France et dans le monde, des villes où les jeunes étaient appelés à sécher les cours pour manifester.
Vous aviez cours de quoi aujourd'hui ?
Là, j'ai séché physique et maths.
On s'en fout de la physique et des maths ?
Non, quand même pas.
C'est bien d'étudier, mais ça sert à rien si on finit par mourir d'une catastrophe climatique ou si on se retrouve à ne plus avoir d'eau à cause de la sécheresse.
On voit qu'il y a un décalage entre l'avancée sur les questions climatiques dans la société par rapport à celle dans les institutions. Et donc, il nous faut d'autres moyens d'agir et donc être ici, se mobiliser dans la rue et faire pression sur les politiques.
Il y a la tristesse, il y a la colère et il y a de l'anxiété face à des discours qui sont parfois... je veux dire, à côté de la plaque.
C'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sert plus à rien de se mobiliser. Et nous, c'est le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui à travers cette grève des jeunes. C'est aussi de dire aux plus vieux, vous aussi, continuez de vous mobiliser parce que nous, on est là, c'est notre avenir.
L'anxiété, ça veut dire, c'est quelque chose dont on ignore la source, en fait. Nous, la source, on sait ce qu'elle est. On sait que c'est la décision politique de l'inaction et c'est un choix. Donc, moi, je ne suis pas éco-anxieuse, non. Par contre, je suis révoltée et en colère.
Louis Amar et Anaïs Recoli ont aussi croisé Selma. Selma a 12 ans, elle était avec sa maman, Émilie. On a parlé de l'absence de Selma au collège aujourd'hui.
Tu es en quelle classe, Selma ?
Je suis en 5e.
Et aujourd'hui, tu n'es pas à l'école ?
Oui.
Et maman, elle est d'accord ?
Moi, je trouve que c'est très important. Elle a fait ce choix et oui, je la soutiens. Ouais. Demain, c'est à elle que ça appartient. Nous, on a déjà bien profité et on n'a pas fait gaffe à plein de trucs. Donc, bien sûr, je la soutiens.
Ces marches pour le climat qui sont toujours une occasion aussi de voir des pancartes originales avec des jeux de mots, des expressions bien senties. On les voit sur vos écrans pour tenter autant que possible de faire passer le message. Ces marches, vous vous en souvenez évidemment, ont été lancées par l'activiste Greta Thunberg, adolescente à l'époque, elle qui avait commencé en séchant les cours et qui engueulait les plus grands de ce monde. Des marches qui avaient été critiquées souvent, questionnées en tout cas. Son mode d'action et comment elle a lancé ce mouvement mondial à 16 ans seulement, elle en a parlé hier.
I had tried to get organized in different organizations and movements before, but that hadn't really done anything and I didn't really fit in there. So I just thought, okay, then I will do something myself. And then it just did work. Just the idea that it's a one child sitting alone, it definitely would not have had the same impact if it was several people. Because that's how the media works. It was a good story to report. It was a simple narrative.
Une semaine après la mort de la jeune Mahsa Amini, la mobilisation ne faiblit pas en Iran.
Mobilisation spontanée, alors que la jeune femme est morte 3 jours après avoir été arrêtée par la police, je le rappelle, pour port de vêtements inappropriés. Elle portait mal son voile. Et tous les jours depuis, ces images de mobilisation d'Iraniens, d'Iraniennes dans la rue, des affrontements aussi avec la police. Alors ce soir, des ONG évoquent un bilan de 50 morts. Il y avait un premier bilan officiel aujourd'hui de 17 morts et des autorités qui ne reconnaissent pas l'implication des forces de sécurité. Pourtant, on a bien vu sur ces images, sur les premières images en particulier, sur les motos des policiers tirés sur des manifestants, vous les entendez aussi. Mais la police est prise à partie également par les manifestants, comme vous le voyez à présent. Je rappelle que c'est après avoir été arrêté par la police des mœurs que Mahsa Amini est morte. À l'Assemblée générale des Nations Unies, le président iranien prenait la parole tout en promettant une enquête interne. Il a dénoncé la position des pays occidentaux.
این که فقط در این مورد پیگیری بشه چرا در مورد افراد دیگری که در اروپا در امریکا در غرب به دست پلیس اونها کشته میشن یا احیانا آسیب میبینن و خسارت بهشون وارد میشه مورد بررسی قرار نمیگیره یا نتایجش اعلام نمیشه.
En Iran, il faut le rappeler, il y a le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et ce que vous voyez à présent, ce sont des panneaux, des affiches avec des photos de l'ayatollah en feu, en proie aux flammes, littéralement. C'est un symbole dans un pays que l'on connaît assez verrouillé. Une autre image, ces manifestants qui prennent d'assaut des bâtiments officiels. Elles sont du milieu de la semaine. Nous avons pu contacter un Iranien de Téhéran aujourd'hui au téléphone et vous comprendrez qu'il tienne à rester le plus anonyme possible. Au téléphone, David Rouda lui a demandé si ce que l'on voit en ce moment, ce que l'on reçoit, est si exceptionnel.
It's not very pleasant for us. It's a very tragic thing that happened, and we are sad about that. And I don't know what happens next. Some protests happen every day. Like we here in Iran, we see that too many workers protest in France. This is the things that happen very often. We have too many difficulties through sanctions, about our medicine, about our things that we haven't. Earlier in our country, this is a very difficult situation.
Alors, on a modifié sa voix, bien sûr. La liaison téléphonique a tenu. Aujourd'hui, dans le monde, vous pouvez lire l'expression « répression à huis clos » parce que régulièrement ces derniers jours. Le téléphone est coupé. Internet en particulier, les réseaux sociaux internationaux. Notre témoin à Téhéran travaille sur le net et il nous raconte le concret, ces coupures au quotidien, ce que ça implique.
We have a national things that, for example, for two or three applications that we use frequently, ordering food, like traffic management applications, like a Netflix type of things. We have access to those applications, but not Instagram, not WhatsApp, not YouTube. I can say, for example, 1.5 million accounts on Instagram are actually selling fashion products. When we don't have the Instagram, so we don't have jobs.
À noter tout de même aujourd'hui, et pour être complet, même si on n'a pas de chiffres pour le moment, ces images de manifestations également plus calmes. Ce sont des manifestations de soutien au régime, au pouvoir en place. C'était aujourd'hui à Téhéran. En marge de ces événements en Iran, vous avez entendu le président iranien à New York, l'occasion d'une interview avec la journaliste de CNN, Christiane Amanpour. Le président qui n'a pas honoré son rendez-vous au final, qui a annulé l'interview parce que la journaliste américaine ne voulait pas porter le voile.
Going to have the first exclusive here in New York. I have never been asked by any Iranian president, and I have interviewed every single one of them since 1995, either inside or outside Iran, never been asked to wear a headscarf. After hours of getting this interview ready, having pre-talks with the president's officials, giving them sort of an idea of what we wanted to ask about, at the very end, they come up with this. You know, it's a religious month of mourning and we need you to wear a headscarf.
L'abolition de la loi sur le voile.
Luc Ferry, c'est une situation qui vous interpellait.
Oui, parce que je crois qu'on ne mesure pas à quel point... Vous avez parlé de 50 morts, d'ailleurs, votre reportage est vraiment formidable, mais on ne mesure pas à quel point c'est incroyablement violent, à quel point ces femmes sont courageuses. C'est un courage, mais c'est le courage vraiment, pour le coup, le risque de la mort. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait un très bon article de Jeannette Bougrabe dans le Figaro il y a 2-3 jours où elle disait, voilà, comparer ce qui se passe en Iran... Et comparé avec ces néo-féministes qui demandent l'abolition de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, qui demandent que les femmes puissent remettre le foulard à l'école. Je veux dire, il y a quelque chose de délirant. Il y a des femmes qui risquent leur vie en retirant le voile et d'autres qui, en France, voudraient qu'on autorise à le remettre, bon, et qui militent pour qu'on puisse le remettre, alors que c'est un signe d'asservissement effroyable. Donc je pense que, c'est encore une fois, ce courage de la mort, il est quand même... on n'arrive pas même à l'imaginer. On entend les balles, c'est des balles réelles qu'on entendait tout à l'heure. Reportage formidable, hein, bravo d'avoir fait ça, c'est quand même...
Mais je crois qu'on... Récupération d'images, je tiens à préciser que c'est pas bien
d'Iran. C'est effrayant, quoi.
Et
c'est...
on remercie à ce témoin iranien qui a accepté de répondre à vos questions.
Reste anonyme, évidemment.
On conclut avec des adieux, ceux de Roger Federer.
Oui, l'immense tennisman qui va jouer pour la dernière fois au niveau pro, et c'est plus léger pour terminer ce soir dans un tournoi dont il lui doit son existence, la Laver Cup à Londres, tournoi qui oppose les meilleurs Européens au reste du monde. Il doit jouer son dernier match ce soir. Il sera aux côtés de son adversaire de toujours, Rafael Nadal. Ils vont jouer en double. Mais simplement, regardez l'ovation pour Roger Federer au moment de la présentation des équipes tout à l'heure.
It's the Swiss maestro, Roger Federer.
Mais Babette, j'ai trouvé une reconversion pour Federer. Regardez ces images d'hier soir, juste avant un gala. Il y a l'écrit et en face, c'est l'Argentin Diego Schwartzmann.
Eh bien, ouais. Bon dernier match à Roger Federer. Merci Mathieu, merci beaucoup Luc Ferry. Je rappelle, La vie heureuse, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nicolas Ksif-Martoff, journaliste au magazine SoFoot, excellent magazine. Et le Qatar de la honte, c'est le 20 octobre prochain. Sabine Gagné, je rappelle que vous êtes juriste, responsable du programme Justice économique et sociale à Amnesty International. Pardon, c'est allé un peu vite. Et j'ai moulé comme d'habitude dans un instant. Florence Foresti est notre invitée du dîner 50 minutes. Je pense qu'on va s'amuser. En fait, je ne pense pas, j'en suis sûre. A tout de suite avec Florence Foresti qui nous parle d'une série géniale où elle nous raconte sa vie quotidienne. C'est pas piqué des hannetons. Vieille expression. Très moderne. Voilà, à tout de suite.